Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc l'émission s'appelle Regarde ailleurs. Hein, l'idée, c'est vraiment donner la parole à des gens que je rencontre sur mon itinéraire en lien avec le voyage, l'ouverture. Regarde ailleurs, c'est vraiment élargir sa vision sur le monde à travers des expériences personnelles ou les expériences d'autres personnes. Donc là, je me retrouve dans ta chambre, Jacques, à Varanasi. On est dans un hôtel pas trop loin des bords du Gange en Inde. Et j'ai entendu parler de toi à plusieurs reprises, notamment de par ton itinéraire de vie particulier où tu as commencé à prendre la route relativement jeune. Donc on va revenir à cette époque de ta vie. Et j'aimerais savoir ce qui t'a poussé pour la première fois à quitter la France pour aller explorer, je crois que c'est l'Inde, un des premiers pays dans lesquels tu as été.
Donc j'ai été intéressé par le yoga dès l'âge de 17 ans. J'ai commencé à 17 ans, la méditation vers 19 ans. Et j'ai été pris par les études de médecine. Mais à la fin des études de médecine, j'ai demandé un poste en Inde, parce qu'à l'époque, il y avait un psychiatre à Delhi et éventuellement un à Bombay aussi. Alors, j'ai pas eu ce poste, j'étais en Algérie. Mais c'était déjà un voyage, 15 mois en Algérie. J'ai visité le Sahara, j'ai rencontré des gens d'une culture différente. Et puis après, je suis parti 6 mois en Inde et j'ai entendu dire qu'on pouvait avoir des bourses de recherche pour l'Inde. Donc j'ai, dès que je suis revenu de 6 mois en Inde, le surlendemain, j'étais au ministère des Affaires étrangères, j'ai demandé mon dossier que je leur ai renvoyé quelques jours plus tard. Et j'ai eu cette bourse de recherche en Inde avec un jury, donc des professeurs d'indologie, des gens de l'ambassade d'Inde qui étaient là. Et pour faire un livre, le maître et le thérapeute, c'est-à-dire une comparaison entre la manière dont le maître spirituel s'occupe de ses disciples et le thérapeute s'occupe de ses patients.
Mais comment tu expliques qu'à 17 ans déjà, tu t'intéresses au yoga, à la méditation? 17 ans, c'est jeune, tu as quel âge? Enfin, tu as quel âge? On est en quelle année à cette époque-là quand tu...
Alors, c'était donc 17 ans, c'était en 73, voilà, et j'avais passé mon bac et j'ai commencé à m'intéresser au yoga à ce moment-là.
Mais pourquoi? D'où ça venait? C'est dans ta famille?
Quand même plutôt 18-19 ans, oui, si je réfléchis bien, c'était plutôt 18-19 ans. Ben, mon père avait fait du yoga, c'était dans les années 45, il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient, mais mon père en avait fait avec Shri Mahesh, qui a été un grand professeur de yoga à Paris, indien, donc, qui était du sud de l'Inde. Et donc, quand j'avais 10 ans, je me souviens, je voyais une grande feuille de Shri Mahesh avec toute la salutation au soleil, et je me suis dit, ça doit être intéressant. Et du coup, quand j'ai demandé à mon père un livre sur le yoga, donc quand j'avais environ 17-18 ans, il m'a dit « le yoga, c'est mieux que tu pratiques directement ». Et du coup, je me suis inscrit dans un cours et j'ai fait... Il y avait un prof qui faisait yoga, relaxation, sophrologie, donc j'aimais bien la partie aussi méditative, image mentale, etc. Ça complétait bien les postures sont importantes, mais les images mentales aussi.
Donc tu commences ta vie de voyageur en Algérie, tu disais, pour finalement revenir en Inde à l'âge de 19 ans.
C'est ça, oui, oui, oui. J'arrive en Inde et on m'avait dit, tu verras, Calcutta, c'est terrible, les gens sont morts de faim dans la rue, etc. Et alors je suis arrivé avec un peu d'appréhension, c'était ma première fois en Inde, j'avais pris la compagnie la moins chère, la Bangladesh Airlines. Et donc j'arrive à Calcutta, j'entends de la musique dans la rue. Donc je sors, j'avais pris mes pâtes au gaz, bon c'était pas du tout adapté parce que j'allais faire un trek dans l'Himalaya après, donc je suis sorti avec mes grosses pâtes au gaz, et à Calcutta il fait quand même chaud, donc les pâtes au gaz ça faisait bizarre pour les habitants. Et au coin de la rue, il y avait une procession de mariage qui passait, ils dansent au coin des rues. Et alors ils m'ont dit, toi, l'étranger, viens danser avec nous. Et donc, 10 minutes après avoir déposé ma valise dans l'hôtel, j'étais en train de danser avec les Indiens de Calcutta. Voilà, donc faut pas être dans les clichés, hein. Tout le monde ne meurt pas dans la rue à Calcutta, ça peut arriver. Mais, pour être clair, moi j'ai passé 35 ans en Inde, j'ai vu 2 fois un mort dans la rue, c'est tout. Voilà, il a eu un accident cardiaque, où il était là, il était mort. Enfin, une fois un homme, une fois une femme, mais c'est tout. Quoi. Voilà, on ne retrouve pas des morts dans la rue tout le temps en Inde, faut pas exagérer.
Donc 35 ans en Inde, on va y revenir, mais souvent on entend dire de l'Inde, soit on l'aime, soit on la déteste. Donc toi, en arrivant, apparemment, c'était le coup de foudre, si tu es revenu plusieurs fois.
J'étais préparé, hein, ça faisait déjà 8 ans que je faisais du yoga, j'avais déjà étudié une première fois les Yoga Sutras de Patanjali. Mon père était intéressé par la philosophie de l'Inde, il avait eu une nomination pour faire son service militaire à Pondichéry. Et donc, il devait partir en août 39 à Pondichéry, mais la guerre a éclaté. Donc, il a dû rester en France. Mais sinon, il était parti pour aller à Pondichéry. Peut-être qu'il serait devenu célibataire dans l'ashram de Sri Aurobindo et que je serais jamais né. Voilà, donc les voies de la destinée sont impénétrables.
Mais toi, en tout cas, la porte d'entrée en Inde, c'était la spiritualité.
C'est ça, oui, je suis venu pour ça, je suis toujours là pour ça. Ben, c'est parce que la politique, ça change. Hein, et puis, il y a de la politique qui peut être de la bonne politique, d'autres moins bonnes. En général, c'est mélangé. Et c'est pour ça que je n'ai pas pris la nationalité indienne. Au bout de 10 ans, on peut prendre la nationalité indienne. Mais moi, je n'ai pas pris parce que je ne suis pas venu en Inde pour des raisons politiques.
Mais alors, qu'est-ce que tu fais en Inde depuis 35 ans? Comment tu occupes ton temps? On parle de spiritualité, mais pourquoi ici en Inde, tu nourris cette spiritualité plutôt qu'en Occident ou ailleurs dans le monde? Qu'est-ce qui t'attache ici à ce continent?
Oui, donc, en Inde, la question, c'est ça, dans les ashrams, c'est le faire. Hein. Mon maître, donc, était un médecin français qui est devenu disciple de Mananda Mayi. Et il a été donc dans cet ashram qu'on a vu avec notre groupe ce matin, l'ashram de Mananda Mayi sur les bords du Gange à Benares. Et donc il y a une Française qui est venue, qui lui a posé la même question, donc c'était en 53-54, donc il y a 70 ans. Il lui a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ici, dans cet ashram ?» Et il lui a répondu « Bah justement, on essaie de rien faire. » Et alors après, donc il lui a expliqué l'arrêt du mental dans le yoga, etc. Alors finalement, elle a compris. Et elle a eu un soupir, elle a dit « Ah, si j'avais connu ça quand mon mari est mort !» Parce que là, elle s'est aperçue qu'elle avait tourné en rond dans sa tête, voilà, avec un deuil pas bien fait. Et donc, maîtriser le mental, ça aide justement à bien faire son deuil et à mieux accepter les changements de la vie et en faire quelque chose de profitable. Et donc, j'ai cherché à rien faire, à la base, dans les ashrams, à ralentir le mental pour qu'il se clarifie. C'est un peu comme de l'eau qui est trouble, le mental agité habituel. Et quand on le freine, et ben, l'eau décante et puis on voit le fond. Et c'est le problème de la psychologie occidentale, c'est que même les professeurs de psychologie, en général, ils gardent un mental agité, peut-être plus, parce que quand on est professeur à l'université, on doit savoir des tas de choses, lire beaucoup de choses, et ça agite encore plus le mental. Et donc, quand ils voyaient dans le yoga qu'il fallait ralentir le mental, voire l'arrêter, pour eux, ça voulait rien dire.
Tu peux expliquer ce que c'est que pour toi le mental? Qu'est-ce que ça veut dire, ralentir le mental?
En gros, on a une conscience supérieure qui permet de décider les choses, et puis on a le mental inférieur qui crée des voiles sur cette conscience supérieure. Et donc l'idée, c'est de calmer le mental inférieur, de comprendre comment ce qui fonctionne, pour que la conscience supérieure reprenne les rênes. Hein, parce que l'important, c'est de savoir qui est le boss dans le mental. D'habitude, c'est notre mental inférieur, nos automatismes, nos pulsions, nos compulsions, nos impulsions, nos répulsions. Et donc, tout ça nous entraîne, mais avec une éducation du cœur et de l'esprit, on peut réussir à diriger, canaliser cette énergie. Donc c'est pas du refoulement, c'est simplement changer la direction de l'énergie et la mettre au service d'un but qui soit clairement défini, qui soit supérieur, plutôt qu'être embarqué par les pulsions et les compulsions.
Qu'est-ce que tu entends par conscience supérieure? Est-ce que tu pourrais l'expliquer?
Ben, on a une lumière qui nous permet de savoir ce qu'on doit faire dans une situation donnée. C'est comme si on avait un ordinateur qui traitait toutes les données qui arrivent et avec son logiciel et puis qui nous sortent la réponse. Et donc, cet ordinateur, ce logiciel, faut savoir le faire marcher. Et après, c'est très pratique parce que d'instant en instant, on peut avoir l'action juste, la parole juste et même la pensée juste.
Donc là, l'idée, ce serait de sortir du mental pour pouvoir se relier à sa conscience supérieure et être plus dans l'être que dans le faire.
Oui, et maintenant, c'est accepté par la neurophysiologie moderne, parce que j'ai une formation de psychiatre, et donc on parle de métacognition et de métavigilance. La métacognition, c'est être capable d'observer son mental de l'extérieur, comme ça on peut le comprendre, et puis finalement le transformer et le libérer. Et puis la métavigilance, c'est assez simple. La vigilance habituelle, et on est tous là-dedans, on fait attention à un objet. Mais la métavigilance, c'est faire attention à l'espace autour de l'objet. La distinction paraît simple, mais au fait, ça change tout. Et donc, il y a beaucoup de méditations, en particulier les méditations d'observation du mental, qui développent cette conscience globale. Et donc, le Bouddha disait déjà, il y a 26 siècles, on a deux types d'attention, l'attention ponctuelle et l'attention contextuelle. Donc, en général, quand on pense à attention, on pense à ponctuelle, mais il y a aussi l'attention contextuelle, c'est-à-dire si je regarde un point, comment est-ce que je respire ? Comment est-ce que mon corps, est-ce que ma posture de méditation est juste ou pas, et que pourquoi je fais cet exercice-là. Tout ça, c'est l'attention contextuelle, et puis sentir tout le corps, tout en regardant le point, ça permet aussi de rééquilibrer les tensions du corps, donc cette attention contextuelle est très utile. Même si on ne l'utilise pas tout le temps, en général, on est dans l'attention ponctuelle en méditation, puis de temps en temps, on se dit où est-ce que j'en suis au point de vue posture, quelle est ma motivation pour faire cette méditation. Et donc là, on fait un petit coup de correctif, et c'est ce qu'on appelle l'attention contextuelle. Voilà, donc il faut combiner ces deux attentions qui sont très complémentaires.
Donc aujourd'hui, tu enseignes la méditation.
Oui, c'est ça. Donc je reviens en France et j'enseigne la méditation. Alors il y a des éléments de méditation qui sont proches de l'hypnose. Là j'ai fait un livre qui s'appelle « Sourire au-delà du souffrir » et le sous-titre c'est « Méditation et neurosciences pour soulager les douleurs, la souffrance et l'anxiété ».
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Oui, Jacques, donc en fait l'émission Regarde d'ailleurs est grand public, donc on va prendre un peu de temps aussi pour définir certains termes,
pour que
chacun puisse s'y retrouver et comprendre de quoi il est question. Donc là déjà tu nous parlais d'ashram, donc qu'on comprenne de quoi il s'agit quand on parle d'ashram. Tu parlais aussi de Mahanandamayi, qui est-elle? Donc essayer de donner un petit peu aussi des références culturelles à celui qui va écouter cette émission.
Donc, un ashram en Inde, et c'est l'étymologie, c'est shram, ça veut dire le travail, et a, ça veut dire qui revient vers le centre. Donc, c'est un travail intérieur, c'est l'endroit pour le travail intérieur. Et un ashram, ça se définit par le gourou. Donc, gourou, c'est péjoratif dans le français actuel, mais par contre, ça peut être très honorifique, enfin très respecté. Le Sadguru, le gourou réel, c'est le top de la spiritualité de l'Inde. Alors évidemment, ils savent qu'il y a des déviations parce qu'ils sont dans le pays, mais il y a des maîtres qui sont authentiques et qui donnent donc la transmission réelle de l'hindouisme. Ça se passe par des maîtres réalisés, des Sadguru, comme on dit. Mais c'est pas parce que quelqu'un s'appelle Sadguru qu'il est Sadguru. D'ailleurs, c'est peut-être même le contraire, parce que si on se définit comme le gourou parfait, ça veut dire qu'on a des choses à se reprocher, comme les gens qui disent qu'ils sont pas menteurs. Ça veut dire que probablement ils sont menteurs, si on leur demande rien, qu'ils disent qu'ils sont pas menteurs. Voilà, donc il faut se méfier de tout ça. Mais il y a des gourous beaucoup plus avancés que nous et qui peuvent nous aider donc à des tas de plans. On peut avoir la réalisation sans gourou, sans maître spirituel, mais si on a un bon maître spirituel, ça gagne beaucoup de temps.
Le mot réalisation, c'est pareil, qu'est-ce que c'est? On parle d'éveil, c'est ça, quand tu parles
alors,
de réalisation?
Réalisation, c'est avoir un mental complètement stable, avoir déraciné son ego, et donc mettre le bonheur des autres avant son propre bonheur, et avoir une conscience claire dans tous les états de méditation ou de la vie courante. Et donc maîtriser ses émotions négatives. Et quand on dit maîtriser ses émotions négatives, ça ne veut pas dire les refouler, mais voir au travers et ne plus être gêné par elles et qu'elles n'influent pas notre comportement.
On reviendra plus tard dans cette émission sur le mental et sur la conscience supérieure dont tu parlais tout à l'heure. Le mot gourou, donc effectivement en Inde, en France, peut être perçu de manière péjorative. On va l'associer à la secte, alors qu'ici en Inde, beaucoup d'Indiens se remettent à un gourou qui sont là quelque part pour les accompagner vers cette notion d'éveil. Tu parlais de Mahanandamayi.
Oui, c'est ça. Alors, Mahanandamayi est décédée en 82 à l'âge de 86 ans. Donc, elle était du 20e siècle. Et mon maître Swami Vijayananda, qui était médecin généraliste du côté de Marseille en 1950, est parti pour l'Inde, a rencontré rapidement Mahanandamayi. Il lui a demandé s'il pouvait rester quelques jours dans son ashram, et il est resté 60 ans là-bas, sans jamais revenir en France. Il était fils de rabbin, Et donc, il est passé dans l'hindouisme, mais lui, il dit qu'il s'est pas converti, parce qu'il dit que toutes les religions ont le même des points de départ, qui est le psychisme humain, et le même but, qui est le divin, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et donc, il n'avait pas eu l'impression de se convertir, mais il a quand même beaucoup bénéficié de l'hindouisme. Il connaissait très bien le bouddhisme aussi, donc il a bénéficié du bouddhisme. Et il a été énormément aidé par Mahananda Maye.
Et donc toi, ton gourou ?
Et donc, ce Swami Vijayananda, donc j'ai passé 25 ans avec lui. Il m'a donc beaucoup parlé, transmis l'énergie de Mahananda Maye. Et quand il est décédé, je me suis rapproché d'une autre femme sage, Tenzin Palmo, une Anglaise qui est devenue moniale bouddhiste à 21 ans. Maintenant, elle en a 82, donc ça fait 61 ans qu'elle est moniale bouddhiste. Et c'est la plus ancienne des moniales bouddhistes occidentales chez les Tibétains. Et elle était principalement en Inde. Elle dirige un monastère de Saint-Vanon en Inde. Et elle a été présidente de Sakyadita. C'est la plus grande organisation, à ma connaissance, de moniales bouddhistes. Et puis aussi de femmes laïques bouddhistes.
Donc toi, Jacques, en fait, ta confession, c'est un peu un mélange, c'est une spiritualité qui englobe le bouddhisme, l'hindouisme. Comment tu te définirais aujourd'hui ?
Oui, alors ben, j'ai déjà pas mal bénéficié de la spiritualité chrétienne. Mon père avait fait une moitié de séminaire, il a toujours été passionné par les religions. Il connaissait très bien l'exégèse de la Bible, le catholicisme et aussi d'autres religions, y compris les religions orientales. Et puis j'ai eu cette démarche, donc yoga, hindouisme, et puis assez tôt la méditation bouddhiste, avec ce qu'on trouvait à l'époque en France, c'est-à-dire il y avait Goenka qui commençait pour le Vipassana, et puis Taizen Deshimaru qui était déjà bien installé pour le Zen, donc j'ai travaillé avec les deux. La dernière année de la vie de Deshimaru, j'étais souvent au monastère, au Zendo de la rue Pernetti dans le 14e. Et puis donc les débuts de Goenka, ils n'avaient pas de centre, on faisait les premières sessions de Vipassana dans des maisons particulières. Enfin, j'ai été une fois une session, et puis ensuite j'ai fait avec Goenka lui-même une autre session en Inde. Puis après, moi j'ai fait avec mon maître, quoi, et lui il a continué ses sessions de par le monde. Et donc voilà, ça a été mes bases, et j'ai continué en Inde donc jusqu'au Covid à peu près. Pendant 30 ans, j'étais le plus clair de mon temps en Inde, comme les trois quarts de mon temps en Inde, 4/5. Et puis depuis le Covid, c'est plutôt 5 mois en Inde et puis 7 mois en France, parce qu'il y a plus de demandes aussi en France pour des séminaires de méditation.
Quand tu es arrivé ici, est-ce que tu savais que tu allais rester aussi longtemps ?
Oui, à la fin de mes études de médecine et après ma coopération en Algérie, donc à 29 ans, et je savais, oui, que je pourrais rester longtemps. Parce que j'avais ce projet officiel, écrire un livre sur la relation maître-disciple, mais j'avais envie que ça dure. En plus, quand j'ai rencontré Vijayananda, j'ai senti que c'était mon maître spirituel, et je savais, parce que j'avais lu dessus, que traditionnellement, il faut rester longtemps près d'un maître spirituel. Hein, c'est pas une histoire de juste passer comme ça. Bon, on peut faire son travail et puis être en lien avec un maître spirituel, beaucoup de gens font ça, mais si on peut rester à plein temps près du maître spirituel, certainement le travail est plus intense a priori.
Donc tu as quand même terminé tes études de médecine et de psychiatrie, c'est ça, en France avant de venir ici, donc tu lis un petit peu les deux finalement, le côté scientifique avec le côté plus spirituel.
Oui, c'est ça, donc j'avais mon CES de psychiatrie quand je suis venu en Inde, et j'étais tranquille de ce point de vue là Et du coup, j'ai aussi intégré donc des notions de psychologie dans mes écrits. Le premier, le maître et le thérapeute. Le second, élément de psychologie spirituelle. Le troisième, méditation et psychologie. Donc, mon fil directeur, c'est la psychologie spirituelle qui inclut donc beaucoup de méditation.
Tu peux définir ça, la psychologie spirituelle ?
Oui, c'est une psychologie qui reconnaît qu'il y a une autre force dans le psychisme que l'ego. Hein, pour la psychologie habituelle, le centre du psychisme, c'est l'ego. Et on dit en psychologie spirituelle qu'il y a une conscience supérieure qui peut comprendre l'ego, l'observer de l'extérieur, et finalement le modifier et finalement le faire disparaître pour le remplacer, pour être bref, par la justesse. Un sage, il n'a pas d'ego, mais tout ce qu'il fait est juste. Donc il est guidé par la justesse, alors les gens ordinaires sont guidés par l'ego. L'ego est dans la réaction, la justesse est dans l'action pure.
Donc l'ego serait où, dans le mental ?
Oui, l'ego, c'est comme une araignée au centre de la toile d'araignée du mental, oui. Et, oui. Hein, le, et donc, eh bien, le, l'ego est stupide à la base, parce qu'il cherche toujours à prouver qu'il est meilleur que les autres, même quand c'est pas vrai. Et il a toujours les mêmes réactions de défense, de projection, d'avidité. Et donc, il y a un proverbe zen que je médite depuis des dizaines d'années. Méditer, c'est étudier l'ego. Étudier l'ego, c'est l'abandonner. Parce que quand on a vraiment étudié l'ego, on voit que c'est toujours les mêmes mécanismes, toujours aussi cons. On a envie de s'en débarrasser.
Donne-nous un exemple concret de ce qu'est l'ego. Comment est-ce qu'on pourrait se le représenter? Comment est-ce que nous, on pourrait savoir ou ressentir que là, mon attitude, ma réaction est commandée, dirigée par mon ego et non pas par ma conscience supérieure?
Oui, on peut être simple et parler d'égoïsme et d'égocentrisme. Et donc, quand on a des satisfactions de l'ego, déjà, ça dure pas longtemps. Et puis, ça laisse un goût amer dans la bouche. On sent que c'était pas juste, quoi. Donc on n'a pas de vraie joie avec l'ego, on peut avoir du plaisir, si on plaisir d'écraser les autres, oui ça donne un certain plaisir, mais enfin on sent que c'est pas juste quoi, ça laisse comme la colère, ça laisse de l'amertume, donc l'ego est derrière les émotions perturbatrices, et par contre quand on dépasse l'ego, ça donne la vraie joie.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ok, alors on va revenir à cette notion de méditation, d'ego et de conscience supérieure. Donc comment est-ce qu'on arrive à... Qu'est-ce que tu enseignes à un débutant en méditation? Parce qu'aujourd'hui, ce terme-là, j'ai l'impression que tout le monde sait ce que c'est que méditer, mais personne ne sait réellement ce que c'est.
Oui, c'est ça. Donc la méditation est devenue populaire et plus reconnue grâce à la pleine conscience. Et je pense que c'était nécessaire pour la modernité de faire une forme laïque de méditation qu'on puisse enseigner dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les endroits publics, qui puisse être intégrée à la médecine. La médecine, c'est pour tout le monde, hein, par définition, et indépendamment des croyances religieuses. Et donc, c'est d'abord la méditation est important. Et moi-même, en 2017, j'ai fait un livre assez synthétique où il y a pas mal d'éléments, on peut dire un gros livre, qui s'appelle Pratique de la méditation laïque. Voilà, donc j'insiste sur cette idée de méditation laïque. Et en même temps, j'ai étudié les religions parce que c'est pas exclusif. Hein, on peut avoir une manière, on peut être capable de présenter la méditation de façon laïque. Je le fais aussi dans mon dernier livre, donc sourire au-delà du souffrir, parce que c'est important pour la médecine de pouvoir aborder les choses de cette façon-là, technique quoi, et laïque. Mais aussi, j'ai fait deux livres de mystique comparée, Le mariage intérieur et la mystique du silence, où je parle de toutes les traditions. Et je les ai écrits dans un ermitage dans l'Himalaya. Et donc, on peut faire les deux côtés. Les deux côtés, s'il faut avoir une souplesse d'esprit, puis savoir à quel niveau on se place. La mystique comparée, c'est un niveau. La méditation laïque, c'est un autre niveau. Mais on parle la même chose quand même, ça reste la méditation.
Donc en fait, Jacques, tu as dédié ta vie à essayer d'apaiser ton mental pour développer tes compétences spirituelles et te rapprocher de cette conscience supérieure. C'est ça, c'est vraiment une forme de dévotion.
Oui, alors, mais je sais qu'en faisant ça, on se libère de la souffrance et que ça peut aider les autres. Voilà, donc c'est un phénomène progressif, je ne prétends pas du tout être complètement libéré de la souffrance, mais on est quand même, on peut aider les autres, et ça a été ma vocation aussi de psychiatre, donc les gens me disent « vous avez abandonné la psychiatrie », mais moi je dis « non, j'ai pas abandonné la psychiatrie », mais quand j'étais psychiatre, je faisais de la thérapie, et maintenant je fais de la prévention. Parce que si les gens se mettent à méditer correctement, ils préviennent énormément de pathologies psychiatriques. On parle maintenant beaucoup du système vague, le système parasympathique qui est calmant, qui donne la sécurité. Et c'est vrai qu'en méditation, on travaille beaucoup là-dessus. Donner un sens de sécurité, on a des tas de moyens selon les traditions pour donner un sens de sécurité. C'est vrai que quand on développe un sens de sécurité stable, les névroses, les psychoses, les phobies, les obsessions, tout ça, ça n'a plus trop de prise sur nous.
Encore une fois, je reviens à cette notion de mental et de conscience supérieure. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est pas simplement une croyance? Tu disais que le mental, c'est quelque part l'être qui vibre bas. Et l'idée, c'est d'arrêter de cultiver ses pensées négatives pour essayer de se rapprocher de son intuition, oui. Se relier à son intuition. Mais comment est-ce qu'on peut prouver l'existence d'une conscience supérieure qui est là et qui nous permet d'être plus apaisés, plus dans la joie, plus dans le lâcher prise, plus dans l'amour?
Oui, ben justement, quand on a ces résultats-là et qu'ils sont stables, on peut dire qu'on est dans un début de conscience supérieure. Et je demandais à mon maître quels étaient les signes de progrès spirituel, et il disait plus de joie, plus de conscience. Et déjà, donc, ce sont des bons signes. Donc, c'est pas de l'excitation, c'est pas du plaisir, c'est la joie spirituelle qui n'a pas de cause, qui est juste là parce qu'elle est là. Et on demandait au Bouddha aussi comment reconnaître qu'on progresse spirituellement, donc c'est-à-dire finalement ça vient la même chose, comment reconnaître qu'on a développé sa conscience supérieure. Et lui répondait très brièvement, moins de colère, moins d'avidité, moins d'ignorance. Donc il faut se demander régulièrement où est-ce qu'on en est de là, et puis on voit objectivement si on progresse ou pas.
Mais c'est quand même assez incroyable, parce qu'en Occident, les modèles qu'on nous impose ou qu'on nous propose, c'est le développement économique, le développement matériel, mais à aucun moment on nous incite, elle, dans le développement de l'être et de la conscience.
Oui, c'est ça. Alors, il y a la psychologie qui aide quand même à résoudre certains problèmes. Je crache pas dans la soupe parce que moi-même, je suis psychiatre. Mais quand on fait une psychologie ordinaire où on cherche juste à faire un ego qui fonctionne mieux, on a un plafond de verre. Hein, on se cogne la tête dessus et le problème, c'est que les gens s'aperçoivent pas qu'il y a un plafond de verre qui se cogne la tête et donc c'est une difficulté. Voilà, donc la psychologie spirituelle, alors on parle de temps en temps de psychologie transpersonnelle, c'est admettre qu'il y a un autre là de l'ego. Et alors les gens auront tendance à dire, psychologues qui connaissent pas le côté spirituel, autant de dire, mais si on n'a pas d'ego, on va se faire marcher sur les pieds par des tas de gens. Au fait, non, quand on n'a pas d'ego, on est dans la justesse, et c'est là justement où on peut remettre les choses en place comme il se doit faire, c'est-à-dire avec douceur, mais quand même avec fermeté, parce que si les gens nous marchent sur les pieds, c'est un mauvais karma pour eux, et on a le droit de leur faire sentir.
Qu'est-ce qu'on appelle l'intuition quand on a une intuition?
Eh bien, l'intuition, donc, ça vient de la Bouddhi dans le système indien. Donc, la Bouddhi, c'est la conscience supérieure. Et donc, quand la conscience supérieure est pure, on est comme un diaphragme qui est complètement ouvert d'appareil photo. Il y a la lumière qui passe à 100%. Et la plupart des gens font passer de la lumière, mais c'est comme un diaphragme qui est aux trois quarts fermé ou fermé à 90%. Il y a un peu de lumière qui passe, de temps en temps un peu plus, de temps en temps un peu moins. Mais chez le sage, c'est un canal parfait, donc la lumière passe complètement. Et donc, il est branché sur l'intuition divine. Alors, quand on n'est pas sûr, est-ce que son intuition est supérieure, conscience supérieure, faut voir les résultats. Ainsi, quand on suit une intuition, on est malheureux après, on se dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, c'est probablement que c'était pas juste, mais si on se sent joyeux, léger, lumineux, à ce moment-là, c'est que c'était juste.
Regarde d'ailleurs. Regarde d'ailleurs. Regarde d'ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Être libre.
Jacques, j'ai l'impression que te rencontrer me permet de faire un pas de côté pour un peu observer nos réalités dans lesquelles on vit et se rendre compte que oui. Il faut y remettre de la conscience là-dedans.
Oui, remède à la conscience. Donc, il y a l'analyse du Bouddha, donc qui dit vraiment bien réfléchir sur l'avidité, ce qu'il appelle la saisie. Et donc, pour lui, la solution, c'est la non-saisie. Et donc, il y a une formule zen que j'aime bien et que je médite depuis des années. C'est d'instant en instant ouvrir la main de l'esprit. Parce que notre mental, c'est comme la main d'un bébé. Le bébé, si on lui met son petit doigt, notre petit doigt dans la main du bébé, tout de suite, il accroche. Et donc, on reste comme ça adulte. On a un mental qui s'accroche à tout. Et donc, faut régulièrement l'aider à décrocher. Et donc, d'instant en instant, ouvrir la main de l'esprit, c'est valable à tous les niveaux, hein, pour les désirs matériels, pour les désirs mentaux, et même l'avidité spirituelle. Hein. Il y a des gens qui se gavent de podcasts sur l'internet spirituel, ils pensent qu'ils sont des grands saints, mais non, ils ont juste une indigestion, quoi. Donc faut faire attention à ça. C'est pas qu'il faut pas écouter de podcasts spirituels, mais faut bien les sélectionner. Et puis quand on en a un, faut vraiment le méditer dessus pour qu'il nous transforme. Hein, comme on dit, la meilleure des religions est celle qui nous rend meilleur. La meilleure des méditations aussi, c'est celle qui nous rend meilleur. La meilleure des psychothérapies, c'est celle qui nous rend meilleur. Donc faut pas perdre le but de vue, c'est de devenir une meilleure personne.
Jacques, merci. On va rester là-dessus. C'était cette idée de devenir une version augmentée de soi-même, une meilleure
c'est
personne
ça, oui,
de soi-même.
Oui. On peut dire ça. Hein, donc, lâcher prise et aller à l'essentiel et voir les obstacles donc, qui nous empêchent de nous améliorer.
Vraiment cette idée de prendre un peu de recul sur nos propres réalités et de se rendre compte quelle est la place du mental et essayer de se libérer de ça pour se rapprocher de ce que tu appelais au début de cette émission, la conscience supérieure.
C'est ça. Et donc, il y a un grand maître tibétain en France, c'est Pema Wangyal, le fils de Kangyur Rinpoche, qui était le premier maître de Mathieu Ricard, donc il habite à Chanteloube. Et lui, il traduit dharma par cohérence. Dharma, c'est la notion fondamentale du bouddhisme et de l'hindouisme. Et c'est facile d'avoir des idéaux élevés sur l'écologie, sur la manière dont on doit gérer le monde, sur sa propre psychologie. Mais ce qui est difficile, c'est de mener une vie qui soit cohérente avec ses idées élevées. Et donc, travailler la cohérence.
Jacques Vigne, merci beaucoup, merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre.
Sentir.
Toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.